Morning Edition from NPR News.
Nancy, he's a keeper house.
France Inter, le 18-20.
We are back at the table. Nous sommes de retour à la table des négociations. Les mots de Joe Biden cet après-midi à la tribune de Glasgow, à la COP26. Le président américain qui a effectivement, dès le premier jour de son mandat, ramené les États-Unis dans l'accord de Paris, dénoncé par Donald Trump. Mais depuis, son grand plan pour le climat s'est enlisé. Et l'environnement n'est toujours pas une priorité pour un grand nombre de ses compatriotes. Alors peut-on compter sur Biden dans la lutte contre le réchauffement? On se pose tout de suite la question. Le bruit du monde nous emmène en Inde. Ce soir, le pays qui plante à tout va pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette reforestation, parfois avec une seule et même essence, pose problème. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Sébastien Logeni a retrouvé l'arrière-petit-fils du célèbre chef indien Sitting Bull et trouvé aussi des touristes en Libye. 18h50, l'Amérique de Biden, toujours aussi divisée, avec un documentaire complotiste sur les émeutes du Capitole et un pilote d'avion de ligne qui fait polémique en insultant le président. 18h55, le monde d'après de Franck Madvon, l'Asie et le changement climatique. Bienvenue dans Un jour dans le monde.
Jérôme Cadet. Un jour dans le monde.
Bonsoir Lola Vallejo.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. On l'entend derrière vous, vous êtes en direct de Glasgow, où se tient la COP26, le sommet mondial consacré au climat qui a débuté hier avec les premiers temps forts cet après-midi. On en a parlé dans le journal avec Sébastien Logeni, les prises de parole des chefs d'État et notamment celle de Joe Biden, de retour avec son pays, les États-Unis, à la table des négociations. On écoute le président américain.
Je pense qu'il y a une incroyable chance à saisir, pas seulement pour les États-Unis, mais pour nous tous. Nous sommes à la croisée des chemins de l'histoire. Nous avons la possibilité de construire un avenir incroyable avec de l'énergie propre et en même temps de créer des milliers de nouveaux emplois et d'opportunités dans le monde entier. C'est un impératif moral, mais c'est aussi un impératif économique.
Lola Vallejo, vous avez écouté en direct Joe Biden tout à l'heure, 3 minutes ou pas beaucoup plus puisque c'est le temps imparti au chef d'État. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Alors Joe Biden a fait un discours qui était principalement tourné vers un public domestique, vers un public américain, et qui a énormément insisté, on l'a entendu dans votre extrait, sur le fait que l'action climatique c'était surtout une source d'emploi. Je pense que tout comme en Europe, le Green Deal européen insiste beaucoup sur cette notion d'emploi et de réindustrialisation. Aux États-Unis, c'est vraiment ce qui fait vendre entre guillemets l'action climatique, c'est de dire que ça va être un facteur de prospérité pour les Américains, puisque vous l'avez rappelé, l'action climatique est loin de faire le consensus aux États-Unis.
Donc on est moins sur un discours catastrophiste et noir qu'un discours plus positif, si je puis dire, d'opportunité.
Effectivement, c'est vraiment sur les opportunités qu'on insiste. Je pense que c'est un discours qui est effectivement utile pour arriver à vendre l'action climatique aux États-Unis. Il est aussi partiel parce qu'il faut rappeler que les États-Unis, c'est aujourd'hui le premier producteur et le premier consommateur de pétrole et de gaz. Et il va falloir penser à faire une transition en fait dans ces secteurs. Pour faire clair, on devrait arrêter d'investir dans de nouvelles capacités de production fossile, d'après tous les rapports de l'ONU en lien avec les travaux du GIEC. Et c'est une discussion qui n'a absolument pas lieu pour l'instant aux États-Unis, la question de comment réduire la production des fossiles, même si on le voit dans certains secteurs. Les États-Unis sont engagés, par exemple, à avoir une électricité complètement décarbonée au niveau fédéral en 2035. Mais l'électricité, il faut le rappeler, ce n'est pas l'énergie. Et la dépendance au pétrole et au gaz pour le transport, pour le chauffage, elle est gigantesque. Et c'est un sujet qui n'existe quasiment pas dans le débat américain.
Joe Biden s'est aussi exprimé en creux sur le calendrier, la vitesse des réformes. Il a parlé de decade, autrement dit, la prochaine décennie sera décisive. Il faudrait peut-être aller un petit peu plus vite. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'il avait renvoyé un petit peu l'agenda au futur ?
Non, on peut le lire différemment. En soi, les politiques de transition écologique, elles vont devoir être menées sur la durée, puisqu'on parle de réduction d'émissions absolument énorme. Les États-Unis, tout comme les autres grands blocs et la quasi-totalité des pays du G20, puisque l'Inde vient de faire son annonce, s'est engagée pour la neutralité carbone. Ça veut dire un secteur de l'électricité décarboné, voire une énergie décarbonée, et beaucoup d'efficacité énergétique dans les autres secteurs, que ce soit le bâtiment, le transport, l'industrie. Donc, d'énormes réformes qui vont effectivement devoir être menées sur plusieurs années. Je pense que plutôt que se dire qu'il renvoie la balle à plus tard, il est aussi prudent, parce que c'est vrai que la situation domestique est extrêmement complexe pour arriver à faire passer des réformes. On voit qu'aujourd'hui, les politiques climatiques sont sous le coup d'attaque de la branche législative, vu que la Cour suprême est en train d'essayer de remettre en question la possibilité de l'exécutif à mener des politiques climat. Et vous l'avez rappelé rapidement en introduction, mais le changement climatique, même le consensus sur le fait que le changement vient de l'activité humaine, est vraiment loin d'être acquis, en particulier pour les Républicains, où seulement 20% des électeurs républicains sont convaincus que le changement climatique est d'origine
humaine. Vous parliez des difficultés auxquelles fait face Joe Biden. Il a terminé son allocution tout à l'heure en disant « May God save the planet », que Dieu sauve ou préserve la planète, Dieu et pas une partie des parlementaires démocrates, puisque Joe Biden voulait arriver à Glasgow avec un accord qu'il n'a finalement pas réussi à obtenir sur son plan social et environnemental, qui pourrait être divisé par deux, de 3500 à 1600 milliards de dollars, et dont on n'est pas sûr du tout qu'il soit adopté. Il a des difficultés, vous parliez des réticences des républicains, des difficultés dans son propre camp, Joe Biden.
Effectivement, la difficulté de l'action climatique, c'est que dès qu'on doit passer par le Congrès, on a besoin non seulement du soutien unanime des démocrates, même si on a la majorité dans les deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés, mais on a aussi souvent besoin du soutien de quelques républicains. Mais actuellement, l'épine dans le flanc de Joe Biden, c'est un démocrate, Joe Manchin, qui en Virginie est opposé à toute politique ambitieuse. On sait qu'il est extrêmement sous l'influence du lobby du charbon, et c'est vraiment quelque chose.
Il a lui-même des intérêts financiers dans l'industrie du charbon, d'ailleurs.
Exactement. Et c'est quelque chose, malheureusement, d'assez répandu chez beaucoup de parlementaires américains. On sait qu'il y a une influence très forte des lobbies des combustibles fossiles qui s'exercent. Notamment, on a vu certaines affaires révélées avec un lobbyiste qui parlait de façon très candide récemment des échanges hebdomadaires qu'il pouvait avoir avec ce parlementaire en particulier. Donc c'est un vrai problème. L'action via le Congrès est très difficile, mais je pense que de façon plus préoccupante encore, l'exécutif, qui était jusqu'à présent une sorte de ressort de l'action climatique, est actuellement en difficulté sous les effets de la Cour suprême, qu'il faut le rappeler, et maintenant à majorité républicaine. Avec la nomination des juges sous l'ère Trump.
Le Lavelle et Jo, je rappelle que vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes en direct de Glasgow pour poursuivre sur ce plan, même diminué, hein, divisé par deux grosso modo, s'il venait à être adopté. Est-ce que ça changerait beaucoup de choses pour la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale ?
Oui, absolument.
Ce plan américain.
Oui, les États-Unis, c'est quand même le deuxième émetteur mondial. Son action est aussi très importante parce que, vu que je vous parle de la COP, les États-Unis, ils ont une responsabilité historique majeure. C'est le premier émetteur historique de gaz à effet de serre. Et je pense que plus que ça, on a besoin du leadership américain parce que malgré ces énormes difficultés politiques, on a besoin quelque part de bonnes nouvelles et du fait que l'administration Biden, qui est de bonne foi et qui essaye de faire avancer les choses, arrive à passer quelques mesures. Alors avec les arguments qui passent, on le sait, c'est les emplois. Je pense que pour l'instant, ils se sont pas vraiment attaqués à la question du secteur des fossiles, hors la question du charbon, qui est de toute façon en baisse de voilure pour des raisons macroéconomiques de questions de demande.
Mais il y a encore des centrales à charbon qui fonctionnent aux États-Unis.
Bien sûr, les centrales à charbon, c'est le deuxième pays qui a la plus grande capacité de charbon après la Chine.
C'est quelle part à peu près dans le mix énergétique américain ?
Oh, c'est vraiment une part. J'ai pas de chiffre comme ça, mais c'est une part vraiment importante du mix électrique. Alors c'est aussi le deuxième pays dans le monde avec le plus de renouvelables installés. C'est le deuxième après la Chine, mais il en a trois fois moins de capacité installée. Donc ça vous donne un petit peu une idée de où on est. Je pense qu'on parle beaucoup de la Chine et de que fait la Chine. La Chine n'en fait pas assez. Il faut aussi reconnaître que les États-Unis ont d'énormes défis devant eux. Et l'administration Biden essaie d'avancer, mais c'est vrai qu'ils partent de très loin, vu que beaucoup de choses ont été détricotées sous l'administration Trump. À modérer, parce que quand même sous l'ère Trump, il y avait un paquet de relance Covid qui en fait contenait des baisses d'impôts pour le secteur renouvelable, le secteur de la capture de CO2 et des solutions de stockage, qui finalement a été la première politique d'ampleur pour la lutte contre le changement climatique, et c'était sous l'ère Trump. Donc finalement les choses ne sont souvent pas si noires et blanches que ce qu'on croit, mais effectivement l'administration Biden a aujourd'hui un énorme défi. Je pense que puisque je vous parle de Glasgow, je veux juste mentionner que les États-Unis, ils sont aussi très attendus sur la question de financement climat, puisque en plus d'avoir des réductions d'émissions qui peinent à se matérialiser, les États-Unis sont aussi extrêmement en retard sur l'effort de solidarité Nord-Sud.
Avec les pays du Sud.
Exactement. Vous avez peut-être entendu parler de l'objectif de 100 milliards de dollars promis par les pays riches vers les pays en développement à partir de 2020. Oui, ça a été promis en 2009 à la COP de Copenhague. Ça a été renouvelé à Paris en 2015. Et aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près à 80 milliards. Donc on a un manque à gagner très important. Et les pays développés ont fait une sorte de plan en avance de la COP qui montre que cet objectif ne serait atteint qu'en 2023. Et les États-Unis sont les principaux visés pour cet écart parce que ils ne vont mobiliser en 2024 que environ 11 milliards de dollars. C'est près de moitié moins que ce que va mobiliser l'Union européenne dès cette année. Et donc c'est un écart gigantesque, et vraiment les États-Unis sont le premier pays sur la sellette pour augmenter cette contribution. Donc malgré la bonne foi de l'administration Biden, qui, il faut le rappeler, a soumis un nouvel engagement de réduction à 2030, a aussi soumis une stratégie de développement long terme à 2050 pour essayer de commencer à préciser comment elle atteindrait la neutralité carbone, il lui reste énormément à faire, tant sur les actions domestiques que sur l'effort de solidarité internationale.
Quel est le poids de l'opinion publique américaine? Vous en disiez un mot il y a une minute, Lola Vallejo. Une très petite partie des Américains considère que l'environnement est le problème le plus important. Je crois que ça tourne autour de 4% des Américains. Comment faire dans ce contexte-là pour agir?
Je pense que on le voit dans le discours de Joe Biden, la façon de parler de climat, c'est vraiment parler d'opportunités pour les emplois, de revitalisation de territoires qui sont en difficulté économique, notamment parce que dépendant du charbon. Je pense qu'il va y avoir aussi une question de justice sociale qui va être très importante, parce qu'on sait que les installations les plus polluantes sont souvent le plus près de là où les communautés noires sont implantées. Donc cette question,
il faut expliquer aux gens qui vont peut-être perdre leur travail parce que leur centrale va fermer qu'il y a des opportunités et qu'ils ne resteront pas en rade longtemps, ou qu'il y a des solutions pour eux.
C'est vrai. Non, c'est en même temps, c'est pas très différent du discours tel qu'on le présente aussi en Europe. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus vendeur de parler de l'opportunité que représente l'investissement dans les solutions de transition écologique. Et c'est vrai. Je pense qu'on insiste moins aussi sur tout ce qui est les éco-bénéfices très importants en termes de qualité de l'air, en termes d'accroissement de la qualité de vie, parce que historiquement, peut-être le style de vie américain n'est pas un style de vie qui est tourné sur la sobriété ou l'utilisation de ressources communes, beaucoup moins que c'est le cas en Europe, par exemple. Mais il faut voir que même je vous disais tout à l'heure que 20% des républicains croient que le changement climatique est causé par les activités humaines. Côté démocrate, c'est 70%, ce qui est beaucoup plus important, mais qui est quand même assez faible, je trouve, par rapport au niveau d'importance que ce sujet a dans beaucoup d'autres pays du monde. Donc c'est vraiment important de trouver les arguments qui résonnent avec l'opinion publique américaine, et c'est vraiment sur cette voie-là que s'est engagé Joe Biden pour essayer de faire avancer cette question. Mais il est quand même attaqué de toutes parts, que ce soit par la branche législative, que par les je le mentionnais tout à l'heure aussi, par les députés américains eux-mêmes.
Quel est le poids des success stories américaines? Je pense à Tesla, par exemple, qui est désormais leader mondial de la voiture électrique. Est-ce que ça pèse, ça aussi, dans le dans l'opinion publique américaine, dans la transition américaine, Lola Vallejo?
Plus que les success stories qui sont... Alors, il y a énormément d'engagements, évidemment, venant du secteur privé. Il y a quelques engagements qui sont pris par les... voilà, des nouveaux acteurs comme Tesla, mais quand même on n'a pas d'acteur mondial aujourd'hui sur les solutions renouvelables qui vient des États-Unis. Je pense que ce qui est plutôt encourageant et qu'il faut noter, c'est l'action infranationale, c'est-à-dire les États. Il y a eu 50 États aux États-Unis et il y en a à peu près la moitié qui sont engagés dans des politiques de développement des renouvelables et d'efficacité énergétique. Il y a 7 États qui sont engagés à avoir une électricité complètement décarbonée. Et parfois, les progrès peuvent venir de là où on les attend le moins. Par exemple, l'État qui a le plus de capacités renouvelables installées, c'est le Texas, qui est voilà, l'État historique du développement pétrolier.
Et c'est on quoi, a sont beaucoup des éoliennes en tête, au Texas, Lola Vallejo, par exemple.
Des éoliennes, du solaire, et on parle beaucoup de la Californie, et c'est vrai que c'est l'État historique le plus engagé sur l'action climatique. Il s'est engagé pour la neutralité en 2045. C'est le premier État qui a fait aussi un marché carbone pour limiter les émissions de ses centrales électriques, par exemple. Un marché qui couvre aujourd'hui 85% de l'économie, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc finalement, on a beaucoup parlé du fait que l'action fédérale avait du mal à avancer, mais l'action des États, elle, progresse souvent plus vite que ce qu'on pourrait penser. Et finalement, c'est là que on peut avoir une action bipartisane, c'est-à-dire que républicains ou démocrates, les progrès se font souvent au niveau local, beaucoup plus facilement qu'au niveau national, où là, l'action est extrêmement polarisée.
Merci à vous, Lola Vallejo, pour cet éclairage qui nous permet de voir aussi une réalité de la transition écologique aux États-Unis différente de notre perception habituelle. Je rappelle que vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI. Vous étiez en direct de Glasgow. Vous participez à la COP26 grâce aux moyens de Martin Troadec.
Le 18-20, Jérôme Cadet sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde en Inde. Suffit-il de planter des arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre? Ce que fait le pays à grande échelle, vous verrez que la méthode a ses limites, notamment pour la diversité des forêts. C'est Sébastien Farcy qui va nous servir de guide. Et jusqu'à 19h, avec toujours un œil sur le thermomètre, Sébastien Logeni sous les radars ce soir.
Aux États-Unis, on a retrouvé la trace des descendants de Sitting Bull grâce à l'une de ses mèches de cheveux.
Aux États-Unis aussi, Loïc Loury.
Et une Amérique toujours aussi divisée, Jérôme, malgré le départ de Donald Trump de la Maison Blanche.
Et le monde d'après de Franck Madvon.
Bonsoir Jérôme. L'Asie est le principal émetteur de carbone. On ne pourra pas faire face au changement climatique sans ce continent, mais il va falloir l'aider.
Nous serons en Asie avec vous juste avant 19h. Franck Madvon, à tout à l'heure. On se retrouve juste après Silk Sonic, le duo Bruno Mars et Anderson qui signe Skate.
Do it again. See, look like you're playing for the win. Oh.
L'Inde est le troisième plus important pollueur de la planète. Pays en pleine expansion économique qui ne cesse de couper des arbres pour construire des routes ou des aéroports, mais qui veut atteindre la neutralité carbone en 2070, annonce ce soir depuis Glasgow et la COP de son Premier ministre Narendra Modi. L'Inde a donc mis en place un système de compensation. Il permet aux entreprises qui coupent des arbres de payer pour en replanter ailleurs. Toutefois, ce mécanisme ne remplit pas toutes ses promesses. Reportage sur place en Inde de notre correspondant Sébastien Farcy.
Bambou ? En 2 ans, ça a grandi sur 4 mètres de hauteur et bien 3 mètres de large. Le bambou, ça pousse très vite.
Il y a déjà du bambou dans la forêt adjacente, ce qui explique qu'il pousse très bien ici. Notre but est vraiment de reproduire une forêt naturelle.
Ranjit Nayak est le responsable du service des forêts dans la circonscription de Kottagudem, située dans l'état du Telangana, au sud-est de l'Inde. Et il nous emmène dans cette plantation un peu particulière. Les arbres plantés ici sont censés remplacer les milliers d'autres coupés lors de la construction d'un grand canal d'irrigation dans une circonscription voisine. C'est ce qu'on appelle la reforestation compensatoire, connue en Inde sous le nom de Kampa.
Quand nous avons commencé la plantation, c'était complètement à découvert. Il y avait moins de 10% de couverture forestière. À présent, vous trouvez un mélange de 13 espèces d'arbres, comme des tamarins, des ficus. C'est couvert à environ 40% de végétation, et cela va continuer à se densifier.
Payer pour couper des arbres et financer ainsi les plantations menées ailleurs, tel est le principe du Kampa. Plus de 6 milliards d'euros ont ainsi été versés à ce fonds entre 2014 et 2019 par les sociétés responsables de la déforestation. Le problème, c'est que toutes les plantations ne sont pas aussi diversifiées que celles-ci. Nous entrons dans l'état voisin du Chhattisgarh, dont la riche forêt primaire est rapidement défrichée par l'industrie du charbon. À la place, le service des forêts crée des monocultures sur les terrains qui servaient avant aux populations tribales. Ram Singh Bayaga est le chef du village de Tumayabra et il nous mène sur une plantation lancée il y a 2 ans par le fonds Kampa.
Ici, ils plantent principalement du teck. Il y en a partout maintenant. Et c'est un problème car le teck prend toute l'eau et ne laisse rien pousser autour. Avant, on avait d'autres plantes, ça rafraîchissait l'environnement. Aujourd'hui, avec ces plantations, même l'hiver, il fait très chaud. Il change donc l'environnement.
Le responsable régional du programme Kampa nous assure que les plantations sont mixtes et que les populations locales choisissent même les espèces à planter. Les communautés tribales que nous avons rencontrées ont surtout l'impression d'être dépossédées de leurs terres, des terres qui leur apportaient de la nourriture et des médicaments naturels. Selon le gouvernement, toutefois, cette reforestation serait efficace. La couverture forestière de l'Inde se serait en effet étendue de 1,5% entre 2015 et 2019. Et New Delhi affirme donc être sur la bonne voie pour remplir l'un de ses principaux engagements de la COP21 de Paris, accroître sa couverture forestière afin de créer un réservoir à carbone de 2,5 à 3 gigatonnes d'ici à 2030. Mais le piège se trouve en fait derrière le terme de couverture forestière, car en Inde, cela comprend également les plantations de thé ou d'eucalyptus qui sont bien moins bénéfiques pour l'environnement. Anand Osuri est un scientifique spécialisé en écologie forestière à la Nature Conservation Foundation et il a dirigé une étude sur ce sujet.
La forêt tropicale est irremplaçable. Aucune plantation de teck ou d'eucalyptus ne peut égaler sa capacité à absorber du carbone. Une monoculture de teck peut simplement absorber autant qu'une forêt à feuilles caduques si les conditions sont bonnes, car la plantation est bien plus vulnérable et absorbe moins de carbone dès qu'il y a une sécheresse, par exemple.
Ce scientifique affirme en plus qu'il n'existe pas de données à sa connaissance qui permettent de calculer la capacité de toutes les forêts indiennes à absorber du carbone. Il semble donc impossible de savoir où en est l'Inde de sa fameuse promesse de la COP21 de créer cet énorme réservoir à carbone.
Reportage en Inde, Sébastien Farcy. Sous les radars, c'est maintenant avec Sébastien Legénie.
Ouais.
Sébastien, nous sommes dans les rues de Stockholm, la capitale suédoise, où l'on pratique un rituel singulier afin de bien préparer son passage dans l'au-delà.
Oui, en suédois, ça s'appelle le döstanning, autrement dit le nettoyage de la mort, c'est de circonstance en ce 1er novembre. Alors il s'agit de nettoyer votre maison. Le döstanning, c'est une sorte de ménage de printemps, mais en fin de vie, afin de choisir les choses que l'on laisse derrière soi. Garder telle photo, jeter tel livre, donner un bijou précieux à sa petite fille, mais balancer en revanche ces vieilles assiettes moches que le fils détestait. Bref, faire le tri pour soi-même et pour les autres, ceux qui resteront après notre mort. Voilà ce message de la mort, dit cette retraitée de 84 ans. Elle s'y attelle depuis longtemps, plusieurs fois par semaine, ça la calme. Je fais de mon mieux, dit-elle, pour avoir moins d'affaires, pour soulager mes proches, afin qu'ils n'aient pas à décider quoi faire de toutes ces choses. Ces bibelots, par exemple, sont là, ils ne servent à rien, ils n'ont pas de valeur pour moi, ils ne prennent pas de place, mais peu importe, cette sensation quand je m'en débarrasse, c'est un soulagement. Voilà, le döstanning est une pratique qui trouve ses racines dans une tradition domestique ancienne dans les pays scandinaves, chez les personnes âgées, au point qu'elle a récemment été théorisée par une auteure de 86 ans, Margareta Magnusson. Son livre, Le délicat art suédois du ménage de la mort, a été traduit dans le monde entier, un best-seller salué par le New York Times et qui a désormais ses adeptes sur Facebook ou sur des blogs aux millions de visiteurs.
Partons pour la Libye maintenant, qui renoue très progressivement avec le tourisme.
La Libye déchirée par 10 ans de guerre civile depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, mais qui tente de se réconcilier depuis l'été dernier. Résultat, il y a quelques jours, la ville de Ghadames, à la frontière avec la Tunisie, a vu débarquer dans ses rues des dizaines de gros 4x4 avec à son bord, à leur bord, des touristes occidentaux. Une première depuis la révolution arabe de 2011. Une centaine de touristes français, italiens, islandais ou suisses transportés dans le désert saharien par un voyagiste libyen privé, mais soutenu dans son entreprise par l'État lui-même, qui a mis à sa disposition une escorte de police pour sécuriser le circuit. Voilà, le voyage est offert gratuitement à quelques anciens baroudeurs pour donner une autre image du pays. Le coordonnateur de ce road trip, c'est lui qu'on entend. L'objectif de ce voyage, dit-il, est très noble. Changer l'idée du touriste ou du citoyen européen que la Libye est un État en faillite, un État terroriste. Afficher la vérité, l'exposer au monde extérieur et dire que nous, les citoyens libyens, nous sommes un peuple décent, un peuple pacifique. L'entreprise est peut-être noble, comme on vient de l'entendre, mais encore très fragile. La sécurité est loin d'être assurée en Libye et la plupart des ambassades déconseillent toujours formellement de se rendre aujourd'hui dans le pays.
Allons aux États-Unis avec le descendant d'un illustre chef de guerre indien.
Il s'appelle Ernie Lapointe et cet homme de 73 ans prétend depuis des années être l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Sitting Bull, célèbre chef de guerre indien que l'on entend ici dans un western de 1954 et qui en 1876, Jérôme, vous en souvenez, écrasa les troupes américaines du général Custer lors de la bataille de Little Big Horn. Jusqu'ici, les recherches génétiques étaient restées vaines pour établir un lien entre le chef charismatique des Sioux et son descendant revendiqué. Mais il y a une dizaine d'années, un professeur de l'université de Cambridge se met en tête d'aider cet homme à confirmer ou pas cette filiation. Il va alors récupérer auprès d'Ernie Lapointe une mèche de cheveux de Sitting Bull, une mèche de sa natte prélevée après sa mort et préservée depuis un siècle et demi dans un musée américain. Un ADN très ancien, mais que le professeur va réussir à faire parler avec une technique génétique totalement novatrice. Ses travaux ont été publiés la semaine dernière dans une revue spécialisée. Conclusion: Ernie Lapointe est bien l'arrière-petit-fils de Sitting Bull.
Et puis pour terminer, un dernier crochet par l'Italie, pour saluer la mémoire d'un homme qui nous tirait vers le haut depuis des décennies.
Oui, Ado Campeol est mort à 93 ans, c'était lui le père du tiramisu, Jérôme, littéralement, tire-moi vers le haut, autrement dit, remonte-moi le moral. Ado Campeol, inventeur de ce célèbre dessert à base de cacao, de café et de mascarpone, grâce à une erreur commise par sa femme et par chef cuisinier, mais l'histoire ne dit pas laquelle, il a su garder le secret jusque dans sa tombe.
Voilà, il fallait saluer ce soir le créateur du tiramisu qui nous remonte le moral, Sébastien Legénie sous les radars. Tout de suite, le chanteur brésilien Lucas Santana.
Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem. Faz um ebó pra ele, um ebó pra ele.
Ninguém ninguém, solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um. Acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós.
Se criminaliza o direito de alguém ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós.
Luca Santana à 18h50 sur France Inter. Direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique de Joe Biden, comme chaque lundi, une Amérique toujours aussi divisée, Loïc Loury, et certains s'en donnent à cœur joie pour alimenter ces divisions.
Oui, absolument, c'est le cas de Tucker Carlson, Jérôme, un animateur bien connu de la droite américaine, climato-sceptique, anti-immigration. Entre autres, 3 millions de téléspectateurs le suivent chaque soir sur la chaîne conservatrice Fox News. Et aujourd'hui, eh bien, il sort le premier volet d'un documentaire baptisé Patriot Purge, la purge des patriotes, consacré ce documentaire aux émeutes du Capitole le 6 janvier dernier.
The domestic war on terror is here, is coming after of the country.
The helicopters have left Afghanistan.
Alors, beaucoup de choses, Jérôme, dans cette bande-annonce très anxiogène. Vous l'entendez, des images d'émeutes, de Ben Laden, du Ku Klux Klan, de Joe Biden, de torture aussi. Les hélicoptères ont quitté l'Afghanistan, dit la voix de Carlson. Ils sont désormais ici, assure-t-il, chez nous en Amérique. La vidéo évoque un complot contre le peuple américain et surtout, l'un des personnages qu'elle met en scène parle des émeutes du Capitole comme d'un false flag, une fausse bannière. Comprenez, derrière cette rhétorique complotiste, que l'événement aurait été organisé par les démocrates pour discréditer les républicains et leurs partisans, le tout sans doute pour détourner l'attention d'une présidentielle que Donald Trump à l'époque estimait truquée.
Alors Tucker Carlson est habitué de ce genre de saillie, mais là cette fois il est sous le feu des critiques avant même la diffusion du documentaire.
Oui, l'animateur n'en est pas à son coup d'essai, il avait déjà suggéré que le FBI avait joué un rôle dans les événements du 6 janvier, il avait aussi largement minimisé la portée de ces émeutes qui, on le rappelle, ont entraîné la mort de 5 personnes. Personne, dont un policier, mais cette fois il franchit encore une étape, critiquée ici notamment par le journaliste star de la chaîne CNN, Jim Acosta.
La raison pour laquelle le FBI et des millions d'Américains sont terrifiés par les violences de l'extrême droite dans ce pays, c'est tout simplement parce que ça ne cesse de se produire. Et Tucker Carlson incite à plus de violence. Tucker appelle son film de propagande The Patriot Purge. Ce n'est rien de plus que du porno pour suprémacistes.
Voilà, Carlson conspué par les démocrates ici, mais aussi par certains républicains. Deux élus notamment ont interpellé la chaîne Fox News, propriété du mania des médias Rupert Murdoch. Certains de ses collègues aussi s'en sont pris à Tucker Carlson. Geraldo Rivera, un intervenant très régulier sur Fox, qualifie le documentaire de « bullshit ». Je vous laisse traduire.
Oui, autre illustration de ces divisions, Loïc, beaucoup plus anecdotique. L'histoire se passe dans un avion de ligne.
Oui, sur un vol entre le Texas et le Nouveau-Mexique, au cours duquel le pilote a dit aux passagers dans son micro « Let's go, Brandon », traduisait « Allez, Brandon » comme une forme d'encouragement. C'est une journaliste présente à bord qui raconte l'affaire. Elle explique que certains passagers ont manifesté à ce moment-là un fort mécontentement. Cette expression « Let's go, Brandon », on l'a aussi entendue ce week-end lors d'un match de baseball en présence d'un Donald Trump tout sourire. Et Donald Trump tout sourire parce que de Brandon, il n'est pas vraiment question. Ce « Let's go Brandon », ce cri, c'est une façon d'insulter son successeur, l'actuel président Joe Biden. L'affaire remonte à début octobre lors d'une course de NASCAR très populaire aux États-Unis, une course dans l'Alabama. C'est un certain Brandon Brown qui l'a emporté. Il est ensuite interrogé par une journaliste alors qu'en arrière-plan, eh bien, des centaines de supporters chantent « Fuck Joe Biden ». Ici aussi, Jérôme, je vous laisse traduire. La journaliste qui vraisemblablement ne souhaite pas jurer à l'antenne et les règles en la matière aux États-Unis sont extrêmement strictes, évoque un autre chant qu'on entend beaucoup moins, « Let's go Brandon », tout est parti de là. L'expression est devenue en tout cas très rapidement un phénomène sur Internet et ailleurs, un cri de ralliement des anti-Biden jusque dans le cockpit donc de cet avion de ligne, sauf que eh bien, le pilote en question pourrait regretter son geste puisqu'il est désormais sous le coup d'une enquête.
Beaucoup de traductions ce soir avec vous, Loïc Loury, en direct de New York. Excellente soirée.
Jérôme Cadet, le 18-20.
On vous en parle depuis 18h dans Un jour dans le monde. La COP26 qui s'est ouverte hier à Glasgow. Les dirigeants du monde entier ont pris la parole cet après-midi pour présenter leurs objectifs de lutte contre le changement climatique. Un continent est particulièrement montré du doigt, c'est l'Asie. Il sera impossible de stabiliser le climat sans cette région du monde. Mais les pays asiatiques ont aussi de bonnes raisons de se tourner vers l'Occident pour mener le combat contre le réchauffement. C'est votre monde d'après, Franck Madvon.
Ouais, et d'abord, Jérôme, désolé, je vais vous infliger quelques chiffres pour bien prendre la mesure du phénomène. L'Asie, c'est près de 60% de la population de la planète. En incluant l'Australie, le continent produit et consomme les trois quarts du charbon mondial. La moitié de toute l'électricité de la Chine vient du charbon. En Inde, c'est 75%. L'Asie-Pacifique représente plus des trois quarts de la progression des émissions de gaz à effet de serre. Allez, un dernier chiffre. Environ 1000 centrales à charbon sont actuellement en construction ou en projet dans le monde. Presque 9 sur 10 sont en Asie-Océanie. En clair, on ne pourra pas régler le problème des émissions de carbone et du réchauffement climatique sans travailler avec cet immense continent. Précision importante, des centaines de millions d'Asiatiques font partie des populations les plus exposées, les plus vulnérables au dérèglement climatique, ouragans, canicules, sécheresses ou montée des eaux.
Et les promesses des pays asiatiques ne sont pas à la hauteur des attentes ?
À commencer par la Chine, responsable de plus d'un quart des émissions mondiales de CO2. On le répète, depuis hier, le président Xi Jinping n'est pas présent à Glasgow. Il n'était pas non plus au G20 ce week-end à Rome. Et les États-Unis, vous en parliez avec votre invité, Jérôme, accuse Pékin de ne pas en faire assez. La Chine, on le rappelle, s'est fixée pour objectif la neutralité carbone avant 2060 et un pic des émissions en 2030. D'ici là, son économie reposera largement sur les énergies fossiles, sans limite. D'ailleurs, la Chine a augmenté récemment l'extraction de houille pour faire face aux pannes de courant des dernières semaines. L'Inde est aussi montrée du doigt. C'est le troisième pollueur de la planète. 80% de l'énergie qu'elle consomme est d'origine fossile. Le Premier ministre Narendra Modi a enfin donné cet après-midi une date pour la neutralité carbone, 2070, très tard. Le Japon et la Corée du Sud, longtemps timides, se montrent un peu plus ambitieux. Ils visent zéro émission en 2050, mais partent de loin. En fait, Jérôme, dans la plupart des pays d'Asie, le climat est quasi absent du débat politique. Les gouvernements ne sont pas incités à agir par les opinions publiques.
Alors, y a-t-il, Franck, des raisons d'espérer ?
Alors oui, d'abord, la Chine a annoncé en septembre, rappelons-le, la fin du financement des centrales à charbon à l'étranger. Et au G20, ce week-end à Rome, tous les pays ont au moins pris cet engagement. Bien sûr, la promesse attendue, c'est l'arrêt du financement de toutes les centrales, pas seulement à l'étranger. La Chine n'en est pas là, mais elle assure qu'en 2060, 80% de son électricité sera renouvelable. Il faudra pour cela des investissements massifs. L'économie chinoise en est capable. Elle est aujourd'hui la première fabricante de panneaux solaires et de véhicules électriques. L'Inde sait aussi s'adapter, même si ses efforts sur la reforestation sont discutables. Oui. On l'a entendu avec le reportage de Sébastien Farcy. Sa capacité à produire des énergies renouvelables a été multipliée par 6 ces 5 dernières années par rapport aux 5 précédentes. Mais tous les experts le disent, les promesses du moment sont insuffisantes et beaucoup de pays d'Asie manquent de moyens. L'Indonésie a même conditionné ses objectifs climatiques à l'aide internationale. Plus elle sera soutenue, plus ses émissions seront basses en 2030. Pour l'Inde, le Bangladesh, les Philippines et d'autres, les Occidentaux sont devenus riches grâce aux énergies fossiles. Ils sont grandement responsables du réchauffement climatique. C'est donc à eux qui ont tant pollué de faire le plus d'efforts. En résumé, l'Asie manque d'ambition, c'est vrai, mais les nantis d'Europe et d'Amérique doivent mettre la main au portefeuille et sans doute plus qu'aujourd'hui. Comme l'a rappelé Emmanuel Macron cet après-midi, plusieurs pays riches ne tiennent toujours pas la promesse du net climat de 100 milliards de dollars par an aux pays en développement.
Le Monde d'après, signé Franck Madvon ce soir. Merci Franck. À demain, le 18-20, la suite dans un instant avec le journal de Claire Chaudière et puis le téléphone sonne. Merci d'être avec nous ce soir.